Bonjour Felipe Monroy, buenos días, buenas tardes.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors je suis avec Felipe Monroy qu'on avait déjà rencontré pour les précédents films. Beaucoup d'années se sont écoulées pour passer de Los Fantasmas del Caribe à Hijos del Viento, qui va sortir tout prochainement ici sur les écrans. Ça va être un travail qui a demandé du temps pour faire ce troisième volet de mémoire sur le conflit armé en Colombie, sur Los Fasol Positivos, qui est le thème de ce film.
Oui, et en fait, quand on a fini, quand on était en train de finir le montage de Los Fantasmas del Caribe, on s'avait déjà aventuré à écrire les premières lignes de ce film documentaire et à faire les premiers contacts. Donc moi, je dirais qu'on a passé depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Mais on est ravis d'avoir arrivé à bon port.
Alors Felipe, pour ce dernier volet, donc le Hijos del Viento, les fils du vent, on se consacre aux proches des victimes, Los Falsos Positivos, qui entre 2002 et 2010, ça a été une hécatombe. Tous ces jeunes qui ont été sacrifiés sur les ordres du gouvernement, pour pouvoir prouver, soi-disant, que le gouvernement luttait contre les guerrilleros, contre la guerrière.
Si. Et, disons que le procureur de l'État colombien compte environ 6402 cas. 6402 cas sont avérés. Et on était fruit des enquêtes. Les organisations, les ONG des droits de l'homme pensent que ce chiffre est vraiment irrisoire et puis qu'elle peut arriver à 10 000 et plus.
Alors justement, grâce à ce film, Felipe, vous donnez la voix aux mères, aux proches. On suit plusieurs personnes et le film est découpé en plusieurs chapitres aussi. Mm-hmm. C'était une volonté peut-être d'amener progressivement avec ces chapitres les témoignages pour rendre l'intensité de ces témoignages.
Oui, en effet. Mais c'était aussi une façon de tendre la main au public qui n'est pas spécialisé sur la Colombie. La complexité était comment amener quelque chose de tellement complexe à une sorte d'écriture qui soit pour toutes et tous. Et c'était ça le défi. Et il nous a semblé que le faire par chapitre était la meilleure façon de le faire.
Alors, on ne va pas tout dévoiler non plus parce qu'on veut que le public le découvre en salle. Mais dans Hijos del Viento, on découvre plusieurs personnes qui témoignent. Est-ce qu'on peut quand même les mentionner et dire comment vous les avez rencontrées, comment elles ont accepté de témoigner? Parce qu'on imagine qu'il y a des risques pour ces personnes.
Oui, bien sûr. Alors, il s'agit essentiellement d'un groupe de mères. Donc, c'est comme ces cas, c'était 10 000 enfants qui ont été pris dans des bidonvilles et des régions assez pauvres partout de la Colombie.
Des régions défavorisées.
Des régions défavorisées, oui. Et puis, c'était systématique. L'armée les prenait, les assassinait, les habillait dans des habits de militaires et les faisait passer comme des guerrilleros morts en combat, juste pour faire monter les chiffres. C'est quelque chose qui ont inventé les États-Unis au Vietnam, qui s'appelle les body counts. Et donc, comme on voulait faire partie de cette dénonciation, on a rencontré Doris, Béatrice et Vivian à Bogota, qui font partie d'une association de mères qui s'appelle MAFAPO, Mères des Faux Positifs, Madres de Falsos Positivos. Et aussi une autre
mère qui est en exil,
et d'un militaire,
Carlos
Mora, qui était le premier militaire à dénoncer que dans sa brigade, où il était dans une région très reculée de la Colombie, près de la jungle, et ils étaient en train d'amener des enfants et en train de les faire disparaître. Et c'est le premier à donner l'alerte, et il dit que si on l'aurait écouté, les enfants de ses mères, ils seraient vivants aujourd'hui. Ça l'a coûté aussi à lui, l'exil, et surtout beaucoup de menaces à lui et sa famille. Mmh. Et pour elle, tout c'était vraiment un défi de témoigner dans ce film, parce qu'on les a fait des petits reportages, des notes sur les journaux, que ça soit télévisé ou écrite, mais c'est la première fois que il y a une pratique vraiment cinématographique qui rentre dans leur intimité pendant 4 ans de tournage et où elle permet cette proximité. Donc c'était vraiment très intense pour elle et aussi ça les mettait pas en danger, mais ça les exhibait beaucoup. Mmh. Et même nous aussi on a payé notre quote, notre part.
Oui, justement, c'était ma question, Felipe. On imagine que ces personnes qui témoignent, à la fois c'est une nécessité, c'est un travail de mémoire, mais aussi il y a un double tranchant, c'est-à-dire que elles s'exposent, il y a des risques pour elles, pour leurs proches, et aussi pour toute l'équipe du film.
Oui, mais elles étaient très déterminées depuis le début, parce qu'elles savaient... on a eu une des premières réunions qu'on a eues, et je leur ai dit, je ne vais pas vous cacher la vérité, ça va vous exposer, vous allez être... disons que vous allez être au milieu du collimateur.
Dans la lumière.
Oui, dans la lumière. Mmh. Et puis, mais elles étaient très déterminées. Elles ont dit, moi, personnellement, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est la vérité, la justice pour mon enfant. Et donc, si elles avaient cette détermination, elles qui habitent en Colombie, qui sont là, elles sont en train de mettre de jouer leur peau, quoi, et celle de leur famille. Pourquoi pas moi, j'allais me dégonfler parce qu'on recevait des intimidations ou parce que nos téléphones étaient sous écoute.
Anonyme.
Oui, toujours anonyme, mais on a vérifié, puis c'était effectivement... toujours des voitures et les plaques appartenaient à l'armée et les numéros de téléphone qui nous harcelaient pendant la nuit, c'était un harcèlement psychologique, c'était un numéro de l'armée. Parce que ce monsieur Carlos Mora, cet sergent, il faisait partie de l'intel de l'armée, de l'intelligence, des services de renseignement.
Donc il est considéré comme un traître?
Oui, bien sûr. Non, plus que ça, c'était... En plein tournage, il y a une enveloppe qui glisse, qui dit « Fils de pute, on va te couper la tête, continue à parler avec tes amis de l'étranger, donc nous, l'équipe suisse, et tu verras qu'on va vous mettre une balle à tous dans la tête. » Et c'est une balle réelle, gros comme une balle de M50, c'est ce genre de balles qui tirent depuis les hélicoptères. Mmh. Donc c'est pas... Mmh. Et lui, il habitait dans une résidence où il habite parmi 3000 militaires. Donc on rentrait avec des caméras, c'était lui, il s'est bien bien exposé, mais lui il disait ça, c'est pour moi, mon engagement c'est auprès de ses mères.
Et on le voit d'ailleurs jouer au foot avec sa fille, et c'est important pour lui aussi de dire qu'il veut un avenir pour sa fille. Et donc c'est nécessaire, son combat est nécessaire.
Je pense que c'est le discours de Carlos, et puis ça peut être un peu grandiloquent dans d'autres cas, mais là on l'entend fort et on croit à la sincérité et la simplicité de son discours. C'est-à-dire lui il dit quel pays je suis en train de laisser à ma fille comme militaire qui défend ce pays par les armes. Quel est le destin de ma fille dans si je laisse un pays comme ça? Et l'exemple que je lui donne, que la vérité et la justice est la chose la plus importante dans la vie et qu'elle doit être droit. C'est ce qu'il dit, non, dans ses mots. Et voilà, donc c'est très émouvant, c'est très intense. Et voir Carlos et voir les parcours de ses mères qui sont assez âgées. Et on se demande, est-ce que la vie va les souffrir pour trouver...
Obtenir justice.
Pour obtenir justice pour certaines, et pour d'autres, juste retrouver les dépouilles de son enfant. Parce qu'ils sont... La Colombie est trois fois la France. Et ils sont dans des fosses communes partout.
Et surtout, ils ont déjà été éloignés quand en fait, ces jeunes, on découvre qu'on leur propose... Ils sont souvent... Ils nettoient les vitres des voitures, ils font des petits boulots. Et là, tout d'un coup, on vient leur proposer des boulots qui sont apparemment mirobolants, qui vont leur garantir de l'argent... Donc ils sont emmenés à 400, 500, 600 kilomètres de chez eux.
Si. On a les cas de Ocaña. Les cas de Ocaña, Ocaña à 800 kilomètres.
De Bogota.
De Bogota. Et puis, genre, payer un billet de bus pour quelqu'un comme eux, qui n'avait parfois à manger qu'une seule fois dans la journée, c'était impossible. Donc ils ont tout calculé. Ils ont tout calculé, ils n'ont pas allé les chercher ou là les maires ou leur entourage pouvaient avoir les moyens de « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant ?» Non, 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 non. C'est juste dans des femmes qui parfois ne savaient pas lire ni écrire. Ils sont très surpris, je pense, de que ces mères ont trouvé la force pour s'associer et être... Et avoir le courage de continuer cette lutte qui dure déjà depuis plus de 16 ans.
À propos des passages qui sont très émouvants, on voit une mère, et je crois avec sa nièce, et elles ont un chariot très lourd, où elles amènent plein de choses pour entretenir la tombe où il y a le corps de l'enfant disparu.
Si.
Et c'est très émouvant. Si. Il y a également un autre passage où, Felipe, vous avez pu filmer, où en fait des musiciens arrivent et chantent une chanson qui est l'hommage à la mère.
Oui, tout à fait. Alors, pour ces images très émouvantes des cimetières, il faut aussi savoir que quand ces enfants ont été récupérés, le bureau du procureur les met dans ces cimetières privés, mais c'est elles qui doivent continuer à payer les mensualités pour que les corps soient gardés. Et je viens de vous dire à quel point ces femmes sont des femmes qui n'ont pas des moyens. Mmh. Et puis, oui, c'était les jours de la fête des mères et on a préparé cette surprise et de les amener une mariachis. Et chose qui s'est fait beaucoup en Colombie.
C'est pas que le Mexique.
Non, c'est pas que le Mexique. Je pense que c'est partout en Amérique latine. Mm-hmm. Mais en Colombie, c'est très répandu. Quand il y a un anniversaire ou une occasion très spéciale, amener à sa mère ou sa femme des mariachis. Et c'était des chansons pour la mère. Et beaucoup de ces mères, c'est très émotionnel à ce point aussi, parce que...
Elles se mettent à chanter aussi.
Beaucoup de ces mères, elles se mettent à chanter, mais beaucoup d'entre elles se souviennent que leurs enfants, avec un effort énorme, les amenaient de mariachis les jours des mères. Donc c'est doublement...
Émotionnel.
C'est doublement émotionnel, un double miroir très, très puissant.
Toute cette période des falsos positivos, c'est l'époque du gouvernement Uribe.
Oui.
Mais il y a une impunité.
Alors l'impunité, disons que les falsos positivos, on peut commencer à les renseigner avec l'arrivée du paramilitarisme aussi, dans les années 97 peut-être. Oui. Mais là où il y a eu l'effort, c'est-à-dire les exécutions, les falsos positivos, c'est exécution extrajudiciaire. Donc comme en Colombie n'existait pas l'exécution comme peine, oui. La peine de mort ça n'existait pas, donc si un militaire ou quelqu'un tue... Quelqu'un d'autre, c'est une exécution extrajudiciaire. Et puis, comme Uribe monte au gouvernement avec la promesse, on sort, il faut savoir deux choses, peut-être c'est un peu complexe, mais je m'avance quand même. On sort du gouvernement d'Andrés Pastrana, qui avait promis de faire un processus de paix avec la guérilla des FARC. Et en 98, on se rend compte que les territoires qui ont été donnés aux FARC pour commencer ces processus de paix se retrouvent à être un nid de narcotrafic et avoir, eux, une puissance énorme économique. Bien sûr, les Colombiens sont complètement déçus. Et Uribe, il rentre avec la promesse de battre les FARC par le feu, par la force. Donc c'est pour ça qu'il dit « une main dure, un grand cœur ». Et les Colombiens, ils avalent ça, mais comme ça fait 60 ans qu'on est en guerre civile, c'est pas en 4 ans qu'on allait les éliminer. Mmh. Et donc, ils donnent l'ordre qu'il faut commencer à donner des résultats. C'est pour ça qu'ils se demandent qui a donné l'ordre. Et donc, dans ce sens-là, bien sûr que pendant les gouvernements de l'UE, tout était très sombre, très opaque, ce genre des enquêtes. Et que tous ces gens qui ont essayé de l'intérieur, comme Carlos Mora, à dénoncer ces actions, étaient ciblés comme des ennemis d'État.
Et après, il y avait aussi toutes ces mises en scène par rapport justement aux jeunes qui étaient enlevés, oui. Qui étaient habillés et oui. Tués. Oui. Une mise en scène pour convaincre toute la population. Mais est-ce que la population a été convaincue ou est-ce qu'il y avait quand même des doutes dès le début ?
Convaincue. Complètement. Complètement.
Donc ça fonctionnait.
Je veux dire... On était peu, je pense. On était déjà très, très peu. Je pense qu'il y a une petite partie de la population qui est quand même sensible aux droits de l'homme et plus à gauche. Je pense que nous étions quand même très préoccupés de la montée d'Uribe au pouvoir. parce qu'on savait déjà de où il venait. Et, mais la population, je dirais, il a eu les votations les plus grandes de l'histoire de la Colombie. Et la population a complètement avalé. C'est les jours aujourd'hui que beaucoup des Colombiens, disons 50%, parce que le pays, ces dernières votations, a montré que le pays est complètement divisé, remettent en cause la vérité des maires des faux positifs. Remettent en cause toujours cette vérité alors qu'elle est là.
Elle est tangible.
Elle est tangible, oui, bien sûr. Et, mais on espère qu'avec ce nouvel gouvernement, on aura une option de vérité au moins.
Quelles sont les nouvelles révélations? Parce qu'en même temps, il y a eu maintenant le tournage, le film sort. Donc ça remue beaucoup de choses. La population colombienne est divisée, elle remet en question ce qu'affirment les mères des victimes. Mais en même temps, il y a des nouvelles révélations. Qu'en est-il actuellement de la situation en Colombie?
Bon, je vais revenir sur ta première question. Et c'était par rapport aux mises en scène. Les films, on voulait... Comment on était avec elle tout le temps, on ne voulait pas remuer cette histoire de mise en scène. Mais pour que les auditeurs qui nous écoutent ou nous lient aujourd'hui sachent que les premiers juges militaires qui est en exil en Suisse à cause de dénoncer, c'est les premiers à se rendre à l'évidence qu'ils étaient en train de faire la mise en scène. Et lui, il va nous accompagner dans presque toutes les projections. Et il va nous expliquer, après les projections, dans la discussion, comment agissait l'armée pour faire la mise en scène, qui est vraiment hollywoodien. Ça veut dire qu'il compte par... si une projectile, il fait d'ici, d'un point A à un point B, 12 mètres, alors il faut mettre les corps ici, dans cette position, avec les bottes comme ci, comme ça.
C'est très technique.
C'est très technique, très, très élaboré. C'est très élaboré. Mmh. Si après il venait faire un lèvement de corps donc, et on dit ah oui mais parce que comme c'était tué en combat ça veut dire que ces gens là ils avaient tiré des balles donc pour ça il faut un prélèvement des plombes et barium
de la poudre
alors il les faisait tirer post-mortem pour que les mains soient imprégnées. C'est vraiment
très élaboré
systématique, organisé. C'est une industrie. C'est une industrie, comme l'Holocauste, une industrie.
Une machine à tuer.
C'est pas une petite, comme il dit toujours Uribe, c'est des pommes, quelques pommes pourries dans le panier. Non, c'est une volonté étatique, c'est institutionnel de l'armée qui a organisé 10 000, il faut y aller, hein. Il faut une organisation des malades. Par rapport à la nouvelle citation. Moi, je dois dire personnellement que j'ai beaucoup d'espoir. Moi, Felipe Monroy. Je ne peux pas parler pour le pays. Mais ces dernières...
On fait une pause, on répond à la question.
Oui.
Felipe Monroy, on a été interrompu alors qu'on parlait de la nouvelle situation, des nouvelles révélations en Colombie. Comment ça va maintenant qu'il y a eu le tournage et que peut-être qu'il y a une... sensibilité différente.
Alors moi, d'un point de vue très très personnel et comme Felipe Monroy, j'ai beaucoup d'espoir dans cette nouvelle gouvernement, dans la personne de Gustavo Petro par son parcours des combattants. Ça, disons, c'est pour moi le seul politicien qui n'a jamais été involved dans des situations de corruption, impliqué dans des situations de corruption. Et ça me donne beaucoup beaucoup d'espoir et c'est quelqu'un de très intelligent et puis qui s'est beaucoup préparé pour avoir ses postes dans sa vie aussi, qui a beaucoup souffert et qui vit la Colombie vraiment vraiment de corps et c'est quelque chose qu'on peut voir dans son visage, l'amour qu'il éprouve pour ses pays. Et la situation, alors maintenant, comment manier ou comment faire virer un immense bateau dont ça fait 12 ans d'inégalités, des guerres,
de racisme, de classisme, et comment le faire virer en 4 ans. Alors ses détracteurs, ils disent « Ah oui, mais le gouvernement Petro, il est en train de pas, et on ne voit pas les changements. » Mais s'il vous plaît, ça fait moins d'un an qu'il est au pouvoir. Ça fait même pas un an. Et les gens, ils demandent déjà des changements, alors qu'ils ont vécu 2-3 générations dans un merdier de société, pour ne pas le dire autrement.
Et Felipe, ce combat, j'imagine que ses mamans, les proches, sont heureux d'avoir pu parler et d'être mis dans un film, ça leur donne une visibilité. Mais le combat de ses mamans, ça rappelle celle des Madres de la Plaza de Mayo.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, elle s'était épaulée par les maires de la Plaza de Mayo. Et tout au début, elle s'était pas très organisée. Et elles sont très très vite entourées des gens et de la société civile qui les a accompagnées pour pouvoir faire ce processus de devenir un collectif maintenant, un des plus, sinon les plus reconnus des victimes en ce moment en Colombie. Et les maires de Plaza de Mayo, je pense qu'elles les ont vues en 2019 au 2020, si je ne me trompe pas, avant la pandémie. Elles ont fait un voyage et il y a eu une très jolie rencontre entre les deux groupes de maires, celle de Plaza de Mayo et celle de Colombie.
Et le combat des maires de Plaza de Mayo, ben on sait que quand même le dictateur, il a pu rentrer au pays, il a même pu se mettre à genoux pour embrasser le sol en arrivant. Est-ce que... Non ?
Non, pardon. Oui. Les maires de Plaza de Mayo, c'est les victimes. C'est Argentina, c'est ouais. Les victimes
de
Videla. Ouais. Et tu penses à Pinochet. Ouais. Mais Pinochet, il a disparu. Il a fait. Ben, comment il s'appelle ce réalisateur chilien de Dieu.
Oui, La Reine.
Non, le plus important.
Ah, le plus important, oui.
Celui qui fait la nostalgie de la lumière.
Oui, Guzmán.
Non. Guzmán, Patricio Guzmán. Ouf, ça aussi il faudra couper toutes ces hésitations.
Voilà.
Mais Patricio Guzmán, il parle de les disparus en Chili et puis des atrocités. On les prenait depuis des hélicoptères et on les jetait dans les déserts d'Atacama. C'est brutal. Les Chiliens, ils ont commencé maintenant aussi à faire son processus pour justice et vérité. Mais à voir que Pinochet, il n'a jamais jugé. Et puis, peu de généraux n'est allé en prison, je pense aucun. Je ne le sais pas, mais je ne pourrais pas m'aventurer à dire un chiffre. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'impunité dans ce pays, qu'il y a une division, aussi comme dans la Colombie très grande, entre toujours un mouvement pinochetiste, comme Piñera, et d'autres qui veulent un changement pour son pays et sa société.
Malheureusement, même dans un pays comme l'Espagne, il y a toujours des franquistes.
Oui, tout à fait.
Et à propos de justice et vérité, il y a une commission, Comisión de la Verdad, en Colombie, la commission de la vérité. Et il me semble qu'il y a un monsieur Francisco Deroux, je ne sais pas comment on dit en Colombie, qui disait que les exécutions des civils, c'était fait de manière corporative, de manière persistante, et que c'était une monstruosité. Est-ce que ça n'a pas touché la population pour ouvrir à une certaine conscience?
Je pense que c'était très difficile. C'était une informe, je ne sais pas comment on dit, une informe, un gros dossier qu'ils ont rendu à la fin. Grâce aux accords de paix qu'a fait Juan Manuel Santos en 2016 avec la guérilla des FARC et puis faire qu'ils auront les armes, il a commencé ce processus de la Commission de la Verdad, la Commission de la Vérité, qui a commencé et la Justice spéciale pour la paix, qui est une justice transitionnelle aussi, qui s'est mise en place pour enquêter sur les crimes de la guérilla. Mais pour la première fois, on a reconnu aussi que l'État était impliqué dans ces crimes. Donc à la fin, il faut un énorme dossier je sais pas, 5000 pages, un truc du genre, où s'expliquer, où ils vont rencontrer chacune des victimes dans différents coins de la Colombie pour prendre son témoignage. C'est un processus, c'est un parcours des combattants, ce qui a fait le père Francisco de Roux. Mais je pense que les peuples colombiens, déjà, je connais pas la... Enfin, à part des gens qui sont très intéressés par les sujets, je connais pas d'autres Colombiens qui m'ont dit « Ah, j'ai lu j'ai lu au moins 10 pages, les premières 10 pages du dossier de la Commission de la vérité. » Ils sont venus jusqu'ici, en Suisse, où se trouve un grand nombre des réfugiés politiques victimes de quelque chose qu'on appelait les génocides de la UP, de la Union Patriotica. Ils étaient des militants. C'est le premier accord de paix qui a été fait avec les FARC dans les années 80. Et une fois qu'ils sont rendus les armes, on les a exterminés systématiquement. Et eux, pour ne pas mourir, ils sont venus en exil en Suisse. Donc ça fait 30 ans qu'ils sont là. Et ils sont venus jusqu'ici pour prendre... Et c'est très, très émouvant d'entendre ou de lire ou d'entendre ces gens parler. Comment est-ce que l'État les a chassés, les a massacrés, comme ils se sont retrouvés en exil, à faire une nouvelle vie, dans l'impossibilité de rentrer chez eux. À plus jamais, parce qu'il ne peut pas mettre un pied en Colombie. Les jours où il met un pied en Colombie, les droits d'asile est complètement retiré et ciao, tu rentres plus en Suisse. C'est dur. Et je pense que malheureusement, on n'a pas encore fait l'effet. Je pense pour la prochaine génération, oui. Et je pense aussi que ça devrait être quelque chose que dans l'éducation obligatoire en Colombie, on devrait lire ça aux enfants. Pas aux enfants, mais je veux dire les adolescents qui sont entre 14 jusqu'à 18 ans, ça devrait être obligatoire de lire ce dossier.
Dans le cursus scolaire, oui.
Dans les cursus scolaires.
Donc, quand on entend parler Carlos Mora dans le film, donc ce militaire qui a osé, au risque, sacrifier sa vie en dénonçant ce qu'il avait vu, il y a une question qui taraude les spectateurs et les spectatrices, c'est qui a donné l'ordre ? Parce que les militaires, ils ont reçu l'ordre de quelqu'un. Et si on remonte, leurs supérieurs ont reçu l'ordre de quelqu'un aussi.
Oui, je pense que c'est tout le dilemme. C'est ce qui réclame les maires, en fait, de qui a donné l'ordre. C'est pour eux, ça fait partie de leur réparation. La vérité doit être rétablie. Et pour ça, elles ont besoin que celle qu'elles présument, et que nous, société, on présume aussi, c'est lui qui a donné l'ordre. Il est jusqu'à maintenant dans l'impunité totale. Et si on remonte, les calculs est facile à faire. C'est-à-dire, qui est le chef des armées dans une soi-disant, entre guillemets, démocratie ? C'est lui qui était au pouvoir entre 2002 et 2010 en Colombie, c'était Álvaro Uribe Vélez. Donc pour moi, d'un point de vue personnel, il devrait la responsabilité lui revenir. Et il devrait être amené devant la justice. Mais il a toujours nié sa présence à la justice spéciale, pour la paix. Donc cette justice transitionnelle qui s'est mise en place pour les processus de paix, l'a appelé, lui. Il n'a pas voulu venir. La commission de la vérité, Francisco de Roux, lui a appelé aussi pour venir témoigner. Il n'a pas voulu le faire. Les victimes, c'est pas qu'il a manqué des invitations de la part des parties des victimes.
Il décline les invitations.
Il décline les invitations systématiquement et il ne veut jamais rien à dire par rapport à ça. La seule chose que moi j'ai entendu qu'il a dit par rapport aux falsos positivos, quand il y a eu les premières lumières en 2008, il était déjà en train de sortir, c'était ses enfants étaient des délinquants, ils sont pas allés là-bas pour aller récolter du café. Donc si on tient un discours comme ça, et tout au début de la... C'est parce que les cas de ces maires de Ocaña, de la fosse commune d'Ocaña, étaient la pointe de l'iceberg. Et lui, il sort et il dit dans les news, en plein jour JT de midi, où tous les Colombiens sont devant la télé, ces hommes-là n'étaient pas des...
Il dit qu'ils sont des criminels.
C'était des criminels, c'était pas des gentils paysans qui récoltaient du café. Mais qui allait se déplacer dans ce village-là pour aller voler ou je sais pas quoi. Ou, ouais, commettre des délits.
Qu'en est-il de la Cour pénale internationale ? On sait qu'il y a eu des dossiers très lourds qui ont été gérés, comme le Rwanda, l'ex-Yougoslavie. pour la Syrie, c'est toujours c'est très compliqué. Même Carla Del Ponte a décidé de laisser tomber parce qu'elle disait qu'il n'y a pas de volonté politique. Est-ce que pour la Colombie, il y a un espoir que ce dossier soit empoigné et mené correctement ?
Oui,
oui,
bien sûr.
Désolé.
Oui. Alors, pour ce qui est de la justice pénale internationale, ils sont rendus visite, si je ne me trompe pas, l'année passée ou il y a une année, pendant que Iván Duque était encore président de la Colombie. Il faut savoir que Iván Duque, c'est Uribe qui l'a mis au pouvoir. Donc c'était la
continuité
de aussi de la politique de Uribe. La personne en charge de la Cour pénale internationale qui a visité la Colombie a dit qu'il lui semblait que la justice colombienne pouvait encore essayer de rendre justice aux victimes. Donc je pense que leur position, c'est d'attendre que la justice colombienne utilise ses derniers recours juridiques et humains qui sont pour pouvoir amener en justice les coupables, au cas où la justice colombienne n'arriverait pas à résoudre le problème, la Cour pénale internationale entrerait en mesure. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir que pendant Petro, on va encore avancer là-dessus et d'amener en justice les coupables pour rétablir la vérité pour les deuils des victimes. Mais j'ai craint beaucoup qu'après Petro, on retombe sur un gouvernement Uribe et voilà, tout ce qu'on a essayé de construire dans 4 ans, ils vont l'effacer gros comme un train, quoi. Boum.
Là, il est question que le film soit présenté en présence d'une des mamas. Et est-ce qu'on peut parler justement des événements, de ces soirées spéciales où il y aura des personnes pour parler de la situation en Colombie ?
Alors, on a vraiment, vraiment misé sur un panel des très, très hauts stand-in. Et donc, on a décidé de faire venir Madame Jacqueline Castillo. Elle est la représentante... Elle est la représentante des maires des faux positifs de la Colombie. Et elle vient dans une... On va faire une tournée sur 11 villes de Suisse, de Genève à Zurich. Donc on va vraiment, vraiment parcourir les pays d'un coin à l'autre pour amener la voix de Jacqueline aussi dans les discussions, dans les panels de discussion qui se feront à la fin du film. Mais pas que Jacqueline. Aussi à Genève, il va nous accompagner le monsieur l'ambassadeur de la mission permanente de la Colombie à l'ONU de Genève. À Berne, l'ambassadeur de la Colombie aussi. Et une invitée très spéciale qui est cette première, c'est juge pénal militaire qui a dénoncé qu'il se trouve en exil en Suisse. Et c'est la première fois que lui. Il témoigne devant un public depuis son exil. Ça fait 20 ans qu'il est exilé. Non, ça fait pas 20 ans. Ça fait 16 ans qu'il est exilé. Et c'est la première fois qu'il va ouvrir son histoire au public suisse. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours essayé d'être et de rester un peu à l'écart de ça. Aussi pour reconstruire sa vie. Essayer pas d'oublier par sécurité, mais aussi pour pouvoir se reconstruire comme être humain, comme famille. Enfin, être déclaré ennemi d'État est dur, est très très dur. Enfin, ça l'a fait la vie carrée, quoi.
Et est-ce que le fait d'avoir fait ce film, ça a changé les choses au niveau sécuritaire pour les mamas, leurs avocats, les activistes, les associations qui luttent autour, et pour Felipe Mondoloy?
Alors. C'est disons que c'est très tôt et puis on est à un stade de visibilité car le film il a juste été montré sa première mondiale était à Vision l'année passée. Mm-hmm. Et juste maintenant on commence à faire les vrais travaux parce que on est allé d'abord dans des festivals très spécialisés du cinéma documentaire où les gens s'intéressent aux droits de l'homme. Non, je ne sais pas.
Pas encore,
mais en tout cas, il a toujours reçu beaucoup de louanges et on est très, on est très content pour ça. Et on commence maintenant à faire ce vrai travail, qui est un travail beaucoup plus associatif, beaucoup plus de niche, de ciblé, et puis commencer à exposer ces cas. Le film a été montré en Colombie, chose que j'aurais jamais, jamais pensé. Le film a fait 2000 entrées en Colombie. Mais c'est parce que maintenant, c'est Petro qui est au pouvoir. Si Duque ou quelqu'un d'Uribe aurait été au pouvoir, ces films auraient été montrés en Colombie. Donc on était très contents. Les gens sortaient des salles remplies de 400 personnes, et qui sortaient en larmes, parce qu'on ne sort pas de ce film indemne. Il est très, très dur, très émotionnel, mais aussi il nous éclaire beaucoup. Est-ce que c'est ça le chemin qu'on veut continuer comme société, pour nos enfants, pour les prochaines générations? C'est ça le pays qu'on veut construire aussi? Et on sort maintenant en Suisse aussi, parce que c'est mon 12e pays, et je pense qu'on a besoin aussi de sensibiliser de cette question à la population suisse, qui est déjà très ouverte et très engagée pour la lutte des droits de l'homme, n'importe où se trouve l'impunité. Où je trouve que les Suisses et Suissesses sont très très
impliqué,
mais aussi très sensible à cette question. Oui. J'ai jamais eu une porte qui s'est fermée dans mon visage à cause de ces genres de discours. La ville n'aurait pas changé au Mamitas. Je pense que ça, quelque part, un tout petit peu appuyé d'accélérer les processus. Parce qu'il y a un film qui s'est tourné, qui s'est montré en Suisse, ça met un tout petit peu la pression de la communauté internationale pour que les gouvernements agissent. Et à moi, ça va changer la vie, dans le sens qu'elle, à cause des menaces et tout, la situation est devenue beaucoup plus complexe. Mais encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Et la dernière fois que j'étais à Bogota, j'ai senti vraiment les changements de paradigme, et je me suis senti beaucoup plus en sécurité que pendant les allers-retours que j'ai fait quand on était en train de faire le film.
Alors là, ça, Felipe, c'est le troisième volet de ce travail de mémoire, mais le prochain projet, ça sera aussi un travail de mémoire.
Oui, mais ça, c'est un travail de mémoire de continent. J'ai pas trop le droit d'en parler. Mais ça serait un très très bel voyage depuis Caracas jusqu'à la Patagonia en compagnie de Simon Bolivar. C'est tout ce que je peux dire.
Voilà.
Moi, j'ai déjà tout dit.
Voilà. Merci Simon et merci Felipe.
Merci beaucoup.
Et mucho éxito, beaucoup de succès pour Los Hijos del Viento, que c'est là ahora.
Merci beaucoup, et on espère vous voir toutes et tous dans les
présent.
Salles, présents dans les projections.
Et pour les conversations.
Et pour les conversations surtout, bien sûr.
Merci Felipe.
Merci à vous.